réseau de blanchiment d'argent. Il y aura point de presse pour donner plus de détails, mais on a quand même les grandes lignes.
Digne des meilleures séries sur les cartels de drogue. 19 arrestations, je vous rappelle, 16 hommes, 3 femmes, tous âgés entre 25 et 70 ans. Il y a d'ailleurs 3 suspects qui sont toujours au large. On parle d'un réseau très, très bien structuré qui offrait, on le disait hier matin, là, mais c'est quand même important de le rappeler, un espèce de service international clé en main de blanchiment d'argent du crime organisé. Il y a les Hells qui étaient clients, entre autres, mais quiconque avait besoin de blanchir de l'argent à grande échelle et qui avait les moyens pour le faire parce qu'il y avait des transits dans d'autres pays, même jusqu'en Chine. On a nommé l'opération Collecteur. Ça a démarré au printemps 2016. Pendant 3 ans, un petit peu moins de 3 ans, parce qu'on a soumis tout ça au DPCP et on a attendu qu'ils prennent une décision par la suite, on a suivi la trace de l'argent. On parle de millions et de millions de dollars qui souvent étaient transportés à la bonne franquette, comme on dit, dans des fameux sacs de sport. Et ça provenait d'où? Ben du trafic de stupéfiants, cocaïne surtout. Et ça a permis aux policiers de comprendre et d'analyser tranquillement le stratagème, d'accumuler la preuve et ensuite de soumettre ça, bien sûr, au directeur des poursuites criminelles et pénales. Il y aura comparution aujourd'hui à Montréal. Les 4 suspects qui ont été arrêtés à Toronto ont eu droit à un transport en jet hier. Ils ont été rapatriés pour l'occasion. La GRC va faire le point, en effet, ce matin à 10h au quartier général. Je comprends qu'on va expliquer, bien sûr, ce qui s'est passé, là, en dire un petit peu plus sur les têtes dirigeantes, probablement, mais aussi sur les dessous de cette enquête qui...
Moi, c'est ça qui m'intéresse, ben surtout, oui. Là, c'est de voir quels sont les stratagèmes utilisés. Je comprends qu'on ne peut pas tout dire, là, puis qu'on ne va pas dévoiler toute la preuve, mais ça prend... Je comprends que c'était une petite organisation, mais ce sont des sommes considérables qui ont été blanchies.
Des millions et des millions. Et d'ailleurs, on a bloqué certains montants déjà, là, 1,5 million en argent comptant et 15 millions en biens, en maisons qu'on a saisies, que Revenu Canada pourra utiliser là, ultérieurement, sans doute, à la fin des procédures judiciaires. C'est toujours très long.
Bon, encore les experts là, qui retiennent l'attention au procès de Michel Cadotte.
Oui, et ce sera bientôt au jury d'entrée en scène. Le dernier témoin du procès est le psychiatre Gilles Chamberlain. Il témoigne à la demande de la Couronne, présente une contre-expertise aux experts de la Défense. On sait que les avocats de Michel Cadotte tentent de le faire déclarer non criminellement responsable. Ils tentent de démontrer qu'il souffrait de dépression majeure au moment de mettre fin à la vie de sa femme, que son état mental, si vous voulez, était brouillé, sa capacité à raisonner donc également. Et la Couronne n'est pas d'accord. Eux, on sait, réclament une condamnation pour meurtre non prémédité. Et ce que le docteur Chamberlain est venu expliquer, c'est que l'accusé souffrait probablement d'un trouble d'adaptation et qu'il n'était pas dépressif, que sa consommation d'alcool pouvait avoir joué un rôle sur son humeur. Et on sait, on se souvient, lors de son témoignage, l'accusé a dit lui-même que ce matin-là, il est le lendemain de veille, là, il boit parce qu'il n'en peut plus justement de ce qui se passe avec sa femme. Et il est allé plus loin en disant que c'est pas nécessairement de la compassion, mais un trop-plein de sa propre souffrance face à la condition de sa femme qui pourrait l'avoir poussé à agir. Donc, je pense que c'est important de rappeler, là, parce que c'est très sensible cette cause-là. À chaque fois qu'on en parle, on reçoit beaucoup d'écho du public. Tout le monde reconnaît dans cette affaire-là que cet homme-là s'est occupé de sa femme avec une dévotion absolument incroyable. Quand tout le monde abandonnait autour de lui, lui, il est resté, il a continué, mais ça l'a grugé au fil des ans, ça c'est clair. Et demain, le docteur Chamberlain sera contre-interrogé. Les directives en début de semaine prochaine par la juge Hélène Di Salvo. C'est une juge qui est connue pour sa grande rigueur et sa grande capacité de vulgarisation et ça va lui servir parce que imaginez à quel point c'est important plus que jamais les directives au jury dans une cause sensible comme celle-là, d'expliquer les nuances, d'expliquer justement les notions qui n'existent pas, dont celle du meurtre par compassion.
Merci Monique, à tantôt.